Oui, Madame bonjour, bienvenue à l'hôtel du Parlement Madame ici à Delémont. 14 questions orales sont annoncées durant cette traditionnelle heure. La première est posée par Pauline Quelon, députée indépendante de Saint-Brieuc.
Une taxe des plaques trop chère par rapport aux investissements sur les routes. Le gouvernement conteste les chiffres. Trop de départs parmi les cadres employés par l'État. Le gouvernement conteste les chiffres. Trop de subventions cantonales pour l'hôpital du Jura. Le Jura conteste les chiffres. Je me demande si le Jura ne conteste pas un peu trop souvent les chiffres. Le 21 août dernier, M. Prix a publié une étude de laquelle il ressort que le canton du Jura est le deuxième canton le plus cher en Suisse en ce qui concerne les émoluments de l'office des véhicules. Il encaisserait même près de 20% de trop par rapport à ses coûts effectifs. Le canton du Jura a contesté les chiffres et est le seul canton à l'avoir fait, sous-entendant que M. Prix faisait mal son travail. Pourtant, les chiffres de M. Prix sont ceux de la Confédération, et le Jura ne les a pas contestés lorsque ces chiffres ont été publiés en 2017. Alors, qui a raison, la Confédération ou le canton? Il est nécessaire d'approfondir le sujet et pourquoi pas de demander une expertise indépendante pour avoir des réponses claires. Parce que si les Jurassiens paient près de 20% trop cher ces émoluments, c'est grave. Dans le cas où il s'avérerait que c'est bien la Confédération qui a raison, et donc que l'Office des véhicules jurassiens encaisse des émoluments trop élevés, le gouvernement entend-il procéder à un remboursement des montants perçus en trop? Je remercie le gouvernement pour sa réponse.
Merci Madame la députée. Pour la réponse du gouvernement, je donne la parole à son président, Monsieur le ministre David Herret.
Madame la présidente, mesdames et messieurs les députés, chers collègues, Madame la députée, effectivement, vous parlez de chiffres, je vous rassure tout de suite, on n'est pas dans la guerre des chiffres, on est simplement dans l'explication des chiffres. Et si effectivement il y a de temps en temps des chiffres qui sortent sur des éléments divers au niveau du canton du Jura, eh bien nous avons le devoir aussi, lorsqu'ils sont mal interprétés, mal établis, de les contester, de les expliquer. C'est ce que nous avons fait, effectivement, comme vous l'avez mentionné, dans différents dossiers, et notamment dans le dossier de M. Prix. Monsieur Prix, qui a effectivement pris les chiffres de l'administration fédérale des finances, les chiffres de cette administration proviennent des comptes de l'État jurassien, donc ce sont des chiffres publics que tout le monde peut consulter, et nous avons également connaissance que dans ces comptes de l'État, tout n'est pas identifié par unité administrative, et c'est pourquoi Monsieur Prix a une conclusion qui n'est pas réelle. Il indique donc qu'il y a 119% d'émoluments facturés pour 100% de coûts, ce qui est faux puisque dans les chiffres qu'il a pris en considération, il n'a pas tenu compte de, notamment, par exemple, tous les coûts informatiques de l'Office des véhicules. Et si on tient compte de, toutes ces charges liées à l'Office des véhicules, on arrive à 98% pour l'année considérée par M. Prix, voire même à 95% pour l'année 2017. Donc par rapport à ça, qu'est-ce qu'il faut faire? Il y a directement une discussion qui a été menée au niveau des services de l'État jurassien. Et dès le budget 2019, nous allons donc attribuer au centre de profit, au VJ, tous les coûts, notamment informatiques, qui représentent une grande partie des charges qui n'étaient pas comprises par M. Prix. Maintenant, vous demandez dans votre question, est-ce que nous allons rembourser le cas échéant? Eh bien, comme selon notre analyse qui a été également confirmée par une expertise indépendante, qui a été menée lors de l'étude de l'autonomisation de l'Office, étude faite par un organisme certifié et indépendant de l'État. Cet organisme a confirmé que les émoluments ne couvraient pas les coûts. Donc nous n'envisageons pas de rembourser, puisqu'il n'y a rien à rembourser, mais non, nous n'envisageons pas non plus de facturer aux citoyens la différence entre l'émolument inférieur au coût.
Merci, Monsieur le Ministre. Votre appréciation, Madame la députée? Je n'ai pas entendu. Madame la députée Pauline Quelon est satisfaite. Pour la deuxième question orale, j'appelle à la tribune Monsieur le député Quentin Haas.
Quentin Haas, député PCSI de Cornoles.
Madame la Présidente, chers collègues, Madame, Messieurs les Ministres, une étude publiée dernièrement par l'Université de Bâle affirme que les subventions accordées par l'État jurassien à l'hôpital du Jura figurent à la cinquième place au niveau national. À cet égard, elles semblent donc extrêmement élevées. Le rôle plus ou moins important des cantons dans la gestion de leurs hôpitaux est une question lancinante à l'échelle nationale. Et le service de la santé publique du canton s'est empressé de contredire la méthode de calcul utilisée dans la publication bâloise. Bien que les chiffres et les méthodes de calcul balois semblent donc critiquables, la dénonciation jurassienne de cette étude s'est pour l'instant contentée de les déclarer erronées. Le gouvernement peut-il dès lors nous fournir des exemples concrets et chiffrés illustrant le degré d'erreur de l'étude de l'Université de Bâle ? Je remercie le gouvernement pour sa réponse.
Merci, monsieur le député. Pour la réponse du gouvernement, la parole à monsieur le ministre Jacques Gerber.
Madame la présidente, mesdames et messieurs les députés, chers collègues, monsieur le député, madame la députée Pauline Queloz, je vais encore une fois contester des chiffres. Il est vrai qu'il fut un temps où les scientifiques, parfois, se trompaient quelque peu en comparant des pommes et des poires. Aujourd'hui, les mêmes scientifiques comparent des conducteurs de Porsche avec des cavaliers et concluent que le cavalier est moins bon conducteur parce qu'il est moins rapide au démarrage. Monsieur le député, par rapport à votre question, le calcul est très simple. 3019 francs de subventionnement par lit stationnaire. Si vous multipliez le nombre par le nombre de lits stationnaires au canton du Jura, cela voudrait dire, selon cette étude, que le canton du Jura subventionne à hauteur de 24 millions de francs. Vous pouvez toutes et tous aller dans les comptes de l'État et constater que le canton du Jura octroie des prestations d'intérêt général à son hôpital à hauteur de 6 millions. Si ces 6 millions étaient pris en compte dans l'étude, comme ça devrait être le cas, le canton du Jura se situerait au même niveau à peu près que les cantons de Suisse allemande, c'est-à-dire 4 fois plus bas que ces 3 000 francs. Tout ceci pour produire à sa population des prestations dans les domaines de la pédiatrie, de la gynécologie, des services d'urgence, de la formation du personnel médical, du travail des assistants sociaux, du coût de l'aumônerie et parfois même la participation au programme latin de dons d'organes. Quelles sont, mesdames et messieurs les députés, quelles sont aujourd'hui les cliniques privées sur le marché qui sont prêtes à assumer les mandats publics tels que je viens de mentionner, notamment au niveau des urgences, de la pédiatrie, de la gynécologie, ceci 24 heures sur 24. Aujourd'hui, il n'y en a tout simplement pas.
Merci, monsieur le ministre. Votre appréciation, monsieur le député ? Monsieur le député Quentin Haas est satisfait. Pour la question orale suivante, j'invite à la tribune monsieur le député Christian Spring.
Christian Spring, député PDC de Kourou, qui monte à la tribune pour la troisième question orale.
Madame la Présidente, Monsieur le Président du gouvernement, Mesdames et Messieurs les ministres, chers collègues. Peu avant les vacances, les nombreux usagers de la route à grand trafic passant par Kourou et menant à Vic et aux autres communes du Val-Terbie ont pu, à un moment donné, penser à une amélioration sensible de son tapis de roulement. Espoir de courte durée, car les trous d'avant l'intervention sont devenus des bosses et l'opération n'est en tous les cas pas réussie, à moins que, si dorénavant le département des ponts et chaussées veut se lancer dans les arts graphiques, on peut constater un semblant de damier d'un grand effet, mais malheureusement pas celui escompté. Quand je vois que certains tronçons, bien moins fréquentés, bénéficient d'un nouveau revêtement, ne peut-on pas envisager une intervention adéquate sur cette route dans un prochain avenir ? Je remercie d'avance le gouvernement pour sa réponse qui réjouira tous les habitants du Val-Terbie et de Kourou.
Merci, monsieur le député. Pour la réponse du gouvernement, monsieur le ministre David Herrem.
Voilà, monsieur le député, je n'ai pas très bien compris quelle était votre question. J'ai cru comprendre que c'était de savoir si nous pouvions faire un nouveau revêtement sur le tronçon entre Vic et Kourou. Eh bien, je peux vous rassurer, tous ces tronçons cantonaux sont sous l'œil permanent du service des infrastructures qui analyse l'état de dégradation année après année, voire semestre après semestre, ou hiver après hiver. Et en fonction de certaines priorités, c'est ainsi que les travaux sont priorisés et sont définis, également en fonction du budget à disposition. Pour ce qui est de votre remarque concernant des travaux qui auraient peut-être dégradé l'état superficiel de la surface, Alors, je n'ai pas connaissance en détail de cet aspect, puisque la dernière fois que j'ai pris cette route, c'était le 22 juin pour aller à la fête de Montsevelier. Depuis lors, je n'y suis plus retourné, malheureusement. Par contre, je peux vous rassurer, c'est que lorsqu'il y a des travaux, à la fin des travaux, il y a toujours un protocole de remise du tronçon qui est strictement analysé par le service des infrastructures. Et cas échéant, si la route n'est pas restituée dans un état correct, alors à ce moment-là, les entreprises doivent remettre le tronçon dans un état correct. Et ceci est fait de façon très stricte par l'équipe de l'ingénieur cotonal du service des infrastructures.
Merci, monsieur le ministre. Votre appréciation, monsieur le député ?
Monsieur le député Christian Spring est satisfait. Pour la quatrième question orale, je passe la parole à monsieur le député Raphaël Tchouki.
Raphaël Tchouki, député PS de Kourou.
Merci, madame la présidente, madame et messieurs les ministres, chers et chers collègues. Depuis plus d'un an, La Poste poursuit sa stratégie de fermeture et de démantèlement du service public dans notre canton. Fermeture de l'office de poste à Develier, au Genevay, à Vermes, suppression d'emplois à Delémont et à Porrentruy, regroupement des sites de formation à Delémont, dégradation du service de distribution à Courtedoux. Actuellement, plusieurs maires ont indiqué qu'ils étaient en contact avec La Poste pour envisager ou finaliser la fermeture de leur office. C'est le cas par exemple à Kourou ou encore en Basse-Alène. Bref, l'avancée du désert postal se poursuit à un rythme effréné. Pourtant, le 26 avril 2017, notre Parlement a largement accepté le dépôt d'une initiative cantonale aux chambres fédérales en faveur du maintien des offices de poste dans notre canton. Le 28 mai dernier, le Conseil des États a décidé d'y donner suite, envoyant ainsi un signal fort à la Poste et au canton. En parallèle, une révision de la législation postale est actuellement en cours aux chambres fédérales pour contraindre la Poste à modifier les critères régissant le développement du réseau des offices postaux de manière à ce qu'ils tiennent davantage compte des particularismes régionaux. Le gouvernement avait d'ailleurs jusqu'au 31 août pour répondre à cette consultation. À plusieurs reprises, surtout, le gouvernement a répété être un partenaire des communes et invité les maires rencontrant des difficultés avec la Poste à s'adresser au département de l'environnement afin de recevoir un appui dans leur démarche. D'où ma question. Au vu de la dégradation rapide de la situation et compte tenu des réflexions en cours sur la législation postale, que fait concrètement le gouvernement pour aider les communes à s'opposer aux fermetures d'offices de poste dans nos localités? Par exemple, envisage-t-il enfin d'exiger un moratoire? Je remercie par avance le gouvernement pour sa réponse.
Merci, monsieur le député. Pour la réponse du gouvernement, monsieur le ministre David Herret.
Monsieur le député, le gouvernement n'envisage pas de demander un moratoire puisqu'il l'a déjà fait. Donc, dans la réponse à la consultation sur la nouvelle ordonnance, le gouvernement a demandé un moratoire sur les fermetures de bureaux de poste jusqu'à ce que la nouvelle ordonnance soit validée par le Conseil fédéral. Et c'est dans ce sens-là que donc, le gouvernement est intervenu avant le 31 août, comme vous l'avez mentionné. Également, le gouvernement a affirmé son soutien à l'initiative cantonale qui a été déposée par ce Parlement au niveau fédéral. Et par rapport à cela, le gouvernement continue à discuter, à négocier avec la Poste pour préserver les emplois sur le territoire cantonal, comme vous l'avez mentionné, mais également pour préserver la distribution, puisque la distribution du courrier est également un facteur important, non seulement pour les agglomérations importantes, mais surtout pour les régions rurales de notre canton, où la Poste, petit à petit, démantèle toute la distribution qui est en place. Et à ce niveau-là, le gouvernement reste très vigilant, très attentif. Et nous ne vous cachons pas que nous sommes aussi un peu déçus de l'attitude de la Poste qui, pour le moment, ne joue pas le jeu du fair play au niveau de l'équité en termes d'emploi entre les cantons de la Confédération.
Merci, monsieur le ministre. Quelle est votre appréciation, monsieur le député ?
Partiellement.
Monsieur le député Raphaël Tchouki est partiellement satisfait. Pour la question orale suivante, j'invite à la tribune monsieur le député Noël Saucy.
Noël Saucy, député PDC de Develier.
Madame la Présidente, Madame et Messieurs les ministres, chers collègues, lundi matin, aux environs de 12h30, un individu a tagué sur un mur à Develier l'inscription suivante. L'esprit béglin est éternel. La police cantonale s'est évidemment déplacé sur place pour enquêter. Un habitant du quartier interrogé a été surpris du manque de connaissance de l'histoire jurassienne de cet agent. En effet, ce dernier recherchait activement une famille portant le nom de Béglin. Il imaginait que cette famille avait certainement des ennuis de voisinage et que le tag lui était destiné. Nous savons tous que lors d'une demande de naturalisation, il est exigé de connaître l'histoire suisse. Dans la formation de nos agents de police, serait-il envisageable de mettre sur pied un petit cours de connaissances de base de l'histoire jurassienne? Je remercie le gouvernement pour sa réponse.
Merci, monsieur le député, pour la réponse du gouvernement, madame la ministre Nathalie Barthelot.
Madame la présidente, mesdames et messieurs les députés, peut-être en préambule rappeler que les agents de la police cantonale sont préalablement aspirants au sein du centre interrégional de formation policière qui regroupe en fait trois cantons, Neuchâtel, Fribourg et Jura. Le programme d'enseignement qui est dispensé durant 12 mois revêt différents aspects, que ce soit le droit, la psychologie, l'éthique, la sécurité, le maintien de l'ordre, etc. Mais a priori donc pas de module dédié spécialement à l'histoire de chacun de ces cantons. Parce que étant donné qu'il y a des Neuchâtelois, des Fribourgeois et des Jurassiens, et par souci d'égalité de traitement, on devrait mettre en place un module pour chacun de ces cantons. En fait, tout Jurassien devrait savoir que Roland Béglin a été un des pères de la patrie et je regrette que cet agent n'ait pas été au fait de cet élément historique. Mais je ne l'en blâme pas moins parce que voilà, il a fait son travail et c'est ça qui compte dans le fond. Mais suite à votre intervention, je ne manquerai pas peut-être de suggérer au CIFPOL de vérifier cet élément et cas échéant peut-être d'introduire un petit module rappelant les fondamentaux de l'histoire jurassienne.
Merci Madame la Ministre, votre appréciation.
Monsieur le député.
Monsieur le député Noël Saucy est satisfait. Pour la sixième question orale, je passe la parole à Madame la députée Suzanne Maître.
La question a déjà été posée.
J'invite donc Monsieur le député Thomas Tettler à la tribune pour la question orale suivante.
Thomas Tettler, député UDC de Soyères, qui monte désormais à la tribune.
Madame la Présidente, Madame, Messieurs les ministres, chers collègues. L'assainissement des sites pollués coûte cher à la collectivité et met à mal le fonds des déchets qui finance ces opérations. Le gouvernement a choisi de faire payer dorénavant la facture à la population, car les décharges contrôlées utilisées jusqu'ici comme vaches à lait dans ce compte sont gentiment taries. On est en droit de se poser la question s'il fait sens d'assainir des sites qui n'ont jamais posé et qui ne poseront jamais le moindre problème de santé publique. Mais surtout, je demande au gouvernement pourquoi il veut faire payer aux citoyens, par une augmentation de la taxe au sac, les erreurs du passé dont ils ne sont pas responsables. Merci d'éclairer les familles qui payeront votre fine stratégie.
Merci, monsieur le député, pour la réponse du gouvernement. Monsieur le ministre David Herré.
Voilà, monsieur le député, effectivement, votre question est judicieuse dans le sens où la thématique est effectivement coûteuse. Et actuellement, nous héritons finalement de plusieurs générations d'industries ou de comportements qui ont finalement pollué ou contaminé certains sites. Mais la stratégie est la suivante. La stratégie est bien évidemment d'identifier les sites pollués, d'évaluer leur niveau de pollution et surtout savoir s'ils sont contaminants. Et si un site est contaminant, ça veut dire qu'il peut porter préjudice à la santé publique ou à l'environnement. Et dans ce cas-là, nous envisageons assez rapidement une dépollution du site. Par contre, si le site est considéré comme site pollué non contaminant ou non contaminé, à ce moment-là, il est identifié et il peut être assaini plus tard, car nous partons du principe que ce n'est pas à une génération de réparer en plus ce qu'a fait finalement ou ce qu'ont fait plusieurs générations précédemment. Et par rapport à ça, bien évidemment que l'aspect financier est important. Nous essayons d'utiliser les deniers publics de la meilleure des manières possibles et le fonds des déchets est effectivement utilisé à cette fin, entre autres. Et par rapport à ça, nous avons donc un contrôle des perspectives de savoir quels sont les montants que nous avons à disposition, que nous aurons à disposition, quels sont les besoins de décontamination de certains sites. Et il y a parfois des solutions aussi, entre guillemets, intelligentes qui sont prises, où des sites sont rendus constructibles avec un secteur qui est laissé interdit à la construction pour pouvoir les dépolluer plus tard, lorsque soit les moyens techniques le permettront à des coûts plus bas qu'actuellement, ou soit lorsque la contamination sera avérée. En général, ce sont des sites qui sont non contaminants. Donc il y a, je dirais, un juste milieu qui est trouvé pour chaque cas de figure dans l'intérêt public et dans l'intérêt des finances publiques.
Merci, monsieur le ministre. Quelle est votre appréciation, monsieur le député ? Monsieur le député Thomas Stettler est partiellement satisfait. Pour la question orale suivante, j'invite à la tribune monsieur le député Alain Lachat.
Alain Lachat, député PLR.
Madame la présidente, mesdames et messieurs les ministres, chers collègues. Une rumeur circule entre citoyens de nos villages concernant les personnes seules ou en couple étant à l'aide sociale et possédant des animaux de compagnie, principalement des chiens. Ces personnes se promenant dans nos rues et dans les campagnes sont souvent accompagnées de 2, 3, voire 4 chiens, et les propos entendus au café du commerce et dans la population sont qu'ils touchent une indemnité par chien pour leur entretien de la part du service de l'action sociale, chose choquante s'il en est. Le but de ma question n'est pas de susciter la polémique ni de pointer du doigt les bénéficiaires d'aide sociale, mais bien d'apporter les clarifications nécessaires afin de couper court aux rumeurs, d'où ma question. Est-il vrai que les personnes à l'aide sociale possédant un ou plusieurs chiens bénéficient d'indemnités supplémentaires pour leur entretien? Je remercie le gouvernement de sa réponse.
Merci, monsieur le député. Pour la réponse du gouvernement, madame la ministre Nathalie Berthelot.
Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, en préambule, permettez-moi de vous rappeler qu'il appartient à l'État, au travers de son dispositif d'aide sociale, d'apporter une aide matérielle garantissant un minimum d'existence aux personnes dans le besoin. Toutefois, le minimum social ne doit pas seulement permettre l'existence et la survie des bénéficiaires, mais il doit aussi donner à ceux-ci la possibilité de participer à une vie sociale active. Cette aide vise ainsi à favoriser leur indépendance économique et personnelle et à assurer leur intégration sociale et professionnelle. Cela étant rappelé, pour reprendre votre question qui porte de manière précise sur les normes appliquées dans le cadre de l'octroi de l'aide sociale pour les propriétaires d'animaux domestiques, je peux vous indiquer que la réponse est très simple et qu'elle permet de tordre définitivement le cou aux éventuelles rumeurs. L'aide sociale n'accorde aucun montant supplémentaire pour l'entretien d'un animal domestique. Les éventuels coûts liés à la possession d'un ou plusieurs animaux sont compris dans le forfait d'entretien de base et ne donnent lieu à aucun supplément particulier. Pour être tout à fait précise, il est utile de rappeler que le forfait par mois pour une personne seule se monte à 986 francs. Il appartient dès lors aux bénéficiaires d'en faire l'usage qu'ils souhaitent en ventilant ces différentes dépenses. Il ne nous appartient en aucun cas de porter un jugement sur la manière dont une personne organise ses dépenses. Et si tel était le cas, il s'agirait là assurément d'une atteinte à la liberté individuelle. Une personne peut donc tout à fait choisir de privilégier l'entretien de ses animaux en renonçant à d'autres loisirs ou en limitant d'autres postes de dépenses liés à l'entretien courant. Je tiens ici à préciser que les besoins de base pour l'entretien correspondent aux dépenses quotidiennes de consommation dans les ménages à faible revenu et constituent le minimum nécessaire afin de garantir d'une manière durable une existence conforme à la dignité humaine. D'autre part, vous savez tout comme moi qu'un animal de compagnie peut jouer un rôle déterminant dans l'équilibre quotidien et de nombreuses études montrent les bénéfices de leur présence pour la santé physique et psychique de leurs propriétaires. On peut aussi donc tout à fait imaginer que le fait de posséder un animal de compagnie constitue un facteur d'équilibre, qu'il évite potentiellement des frais médicaux, qu'il peut réduire le sentiment de solitude, favoriser les échanges ou encore être un facteur d'intégration sociale. Mais au-delà des points que je viens d'évoquer, il est surtout question de respecter le libre choix des individus dans leur sphère privée. Et n'oublions pas qu'il ne faut pas se tromper de combat. Nous devons faire la lutte à la pauvreté et non la chasse aux pauvres. Donc si je résume, monsieur le député, l'État n'octroie strictement aucun montant supplémentaire lié à la détention d'un ou plusieurs animaux domestiques aux personnes relevant de l'aide sociale. Et le forfait d'entretien est quant à lui laissé à la libre disposition du bénéficiaire qui peut organiser et prioriser ses dépenses comme il le souhaite. Une remise en question de ce principe porterait assurément, dans tous les cas, atteinte à la liberté individuelle.
Merci, Madame la Ministre. Votre appréciation, Monsieur le député ? Satisfait. Monsieur le député Alain Lachat est satisfait. Pour la neuvième question orale, je passe la parole à Monsieur le député Yves Gigon.
Madame la Présidente, Madame la Ministre,
Yves Gigon, député
Monsieur les ministres, chers collègues, la Poste fera nettoyer tous ses locaux en Suisse par une seule société et a publié un appel d'offres dernièrement en la matière. C'est inadmissible. D'une part, l'appel d'offres prévoit que toutes les négociations se feront en allemand et d'autre part, que les prestations de nettoyage d'entretien ne seront plus procurées au niveau régional ou local. Quelle sera donc la conséquence ? Seule une grande entreprise nationale ou internationale peut emporter le marché. Rien ne justifie de réduire cet appel d'offres à une seule langue et de ne pas la fractionner en plusieurs régions. C'est une discrimination évidente des petites entreprises de nettoyage locales, romandes et donc jurassiennes. Face à ce constat, le gouvernement vaudois a réagi à juste titre avec véhémence et a écrit ce qu'il pensait de cette manière de faire à la Poste. Il défend ses entreprises régionales. Et le Jura, nous aimerions connaître la position du gouvernement jurassien sur ce dossier. D'où ma question. Quelle est la position du gouvernement jurassien sur ce dossier et qu'a-t-il fait concrètement pour contester cette manière de faire de la Poste ? Je remercie le gouvernement de sa réponse.
Merci, monsieur le député. Pour la réponse du gouvernement, monsieur le ministre Jacques Gerber.
Jacques Gerber, ministre de l'Économie.
Madame la Présidente, mesdames et messieurs les députés, chers collègues, monsieur le député, le gouvernement jurassien a également appris, notamment par l'article du temps, de cette situation au niveau de la Poste. Nous nous en offusquons également et nous sommes intervenus dans le cadre d'une commission de gestion du Conseil aux États pour dénoncer cette situation, dénoncer également de manière plus globale l'ensemble des appels d'offres de la Confédération et de ces grandes entreprises para-étatiques. Nous partageons l'appréciation que vous faites sur cette thématique. Nous utiliserons nos prochaines réunions avec la Poste pour réitérer notre désapprobation par rapport à cette manière de faire. Malheureusement, ça devient un tout petit peu trop systématique dans ces grandes anciennes régies.
Merci, monsieur le ministre. Quelle est votre appréciation, monsieur le député ? Monsieur le député Yves Gigon est satisfait. Pour la dixième question, je donne la parole à monsieur le député Romain Cher.
Romain Cher, député UDC de la Baroche, qui monte à présent à la tribune.
Madame la Présidente, Madame la Ministre, Messieurs les Ministres, chers collègues, la Grande France a décidé d'appliquer le prélèvement à la source pour le paiement de l'impôt sur le revenu, ceci dès le 1er janvier 2019, malgré quelques hésitations de dernière seconde. Je doute fort que la France soit souciée autant que le canton du Jura sur l'implication pratique du prélèvement pour les entreprises. Lors de la votation sur l'imposition des frontaliers, je me rappelle, un des arguments des opposants à l'imposition à la source était la mise en place d'un système administratif onéreux et lourd, bien qu'il était prévu d'indemniser les entreprises pour ce travail. En 2019, les entreprises concernées par les frontaliers devront appliquer le prélèvement à la source, point barre, plus de discussion. Donc ma question, le gouvernement s'est-il déjà penché sur la manière d'indemniser ou non les entreprises pour ce surplus de travail induit par le prélèvement individuel de l'impôt ? Je remercie le gouvernement de sa réponse.
Merci, monsieur le député. Pour la réponse du gouvernement, monsieur le ministre Charles Juillard.
Charles Juillard, ministre des Finances.
Madame la Présidente, mesdames et messieurs les députés,
À notre connaissance, l'application de cette disposition par la France n'est pas encore tout à fait réglée dans les pays qui l'entourent, de telle sorte qu'il n'y a absolument rien qui prétend ou qui aujourd'hui obligerait les entreprises, notamment suisses, de prélever l'impôt français à la source auprès des frontaliers qui travailleraient dans nos entreprises. Qui plus est, cette question devra être réglée sur le plan national, puisque c'est la Confédération qui règle avec la France, respectivement avec tous les pays qui nous entourent, ce genre de disposition. Donc, à notre connaissance, il n'y a encore strictement rien de fait. Les discussions, tout au plus entre nos deux pays, mais au niveau entre Berne et Paris, de sorte que le gouvernement jurassien suit cette évolution, mais à ce stade, n'a pas d'informations supplémentaires à vous fournir.
Merci, Monsieur le Ministre. Quelle est votre appréciation, Monsieur le Député ? Monsieur le Député Romain Cher est partiellement satisfait. Pour la 11e question, j'invite à la tribune Monsieur le Député Alain Schwein-Gruber.
Alain Schwein-Gruber, député PLR de Boëcourt.
Madame la Présidente, Madame et Messieurs les Ministres, chers collègues, nous avons subi durant cet été des températures particulièrement élevées, rarement atteintes. Cette canicule a sans doute fait le bonheur et le bénéfice des piscines publiques, mais a visiblement eu des conséquences beaucoup moins heureuses pour l'agriculteur et l'agriculture et les agriculteurs. Perte de maïs, de céréales fourragères, etc. J'imagine que le gouvernement n'a pas été insensible à cette situation fort dommageable pour les agriculteurs. Et je lui pose alors la question de savoir quel est le point de la situation et quelles sont les démarches que le gouvernement a entreprises ou entend entreprendre pour venir en aide aux agriculteurs qui se trouvent visiblement en grande difficulté à ce sujet. Je vous remercie.
Merci, Monsieur le député. Pour la réponse du gouvernement, la parole à Monsieur le ministre Jacques Guerbet.
Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, chers collègues, effectivement, Monsieur le député, la sécheresse a touché toute l'Europe et notamment la Suisse, mais de manière différenciée cet été. Différenciée en fonction des différentes régions de Suisse, mais également au niveau des différents districts au canton du Jura. La Confédération ainsi que le canton ont pris diverses mesures, notamment d'abaisser les droits de douane sur les fourrages importés, le foin et le maïs, et également d'autoriser des dérogations au niveau des paiements directs et au niveau de l'agriculture biologique. Il est également possible pour les agriculteurs d'utiliser des prêts remboursables sans intérêt s'ils ont des difficultés de liquidité financière momentanée pour justement, par exemple, acheter des fourrages. Le gouvernement jurassien a écrit au conseiller fédéral Schneider-Hamann pour lui demander de réduire également le tarif d'importation sur le maïs à zéro comme il l'a fait pour le foin. Nous n'avons actuellement encore pas de réponse de son département. Par contre, nous savons que l'Union suisse des paysans s'est opposée à une réduction totale des droits de douane sur le maïs, justement parce que les différentes régions subissent pas tout à fait de la même manière et il semblerait qu'il y ait au niveau suisse encore des disponibilités pour vendre du maïs au Jura. Ceci étant, et pour favoriser justement la production indigène, nous avons également demandé à l'armée qu'ils mettent à disposition leurs camions pour transporter notamment les balles rondes de maïs au canton du Jura. Et cette fois-ci, c'est l'ASTAG, l'Association des transporteurs, qui s'est opposée à cette manière de faire. Donc l'armée n'a pas finalement mis en place cette solution qui aurait justement permis d'alléger le coût du transport de cette production indigène. AgriJura propose tout de même, en collaboration avec le canton, et appelle les agriculteurs à publier leurs besoins et disponibilités, notamment en ligne sur leur site www.agrix.ch. Ainsi pourra être organisé les transports et bien sûr nous saurons où il y a encore des disponibilités pour les paysans qui en auraient besoin au niveau de la République et canton du Jura. Voilà à ce stade, monsieur le député, les diverses mesures qui ont été prises et il est important ici d'appeler les différents acteurs dans ce domaine de ne pas profiter de la situation de la sécheresse en spéculant sur les pics, les prix, que ce soit des produits de matières premières ou encore du transport.
Merci, monsieur le ministre. Votre appréciation, monsieur le député ? Monsieur le député Alain Schweingruber est satisfait. Pour la 12e question, j'invite à la tribune monsieur le député Loïc Dobler.
Loïc Dobler, député PS de Gloveny.
Merci, madame la présidente, madame et messieurs les ministres, chers collègues. Il ne reste plus que 3 gares dans le Jura dans lesquelles il y a encore des guichets avec du personnel des CFF ou des CJ. Le guichet de la gare de Glovelier a en effet été fermé, presque en catimini, durant la période estivale. À se demander si le Jura n'est pas le canton qui dispose le moins de guichets CFF. Alors qu'on pourrait légitimement espérer un peu plus de volonté de maintenir un véritable service public de la part d'une compagnie régionale comme les CJ, force est de constater que la compagnie au train rouge ne fait guère mieux. À l'heure où Swiss Tourisme rêve de faire de notre pays une destination choisie pour ses parcours à vélo, ce démantèlement des guichets a de quoi surprendre. Qui peut imaginer développer son tourisme avec des automates ? Ce n'est pas sérieux. Ma question au gouvernement. Après, je l'espère, avoir contesté la fermeture du guichet en gare de Glovelier auprès des CFF, le gouvernement s'est-il approché des... est presque essentiel pour l'offre touristique. D'avance, je remercie le gouvernement de sa réponse.
Merci, monsieur le député. Pour la réponse du gouvernement, monsieur le ministre David Erret.
Voilà, monsieur le député, vous parlez d'une entreprise, les CFF, qui, je vous le rappelle, est propriété de la Confédération. Confédération qui donne donc des ordres et des instructions à cette entreprise, notamment en termes de rentabilité, ce que souhaitent aussi les cantons, ne pas payer trop de prestations aux CFF, mais plutôt avoir des performances au niveau des voyageurs et des transports de marchandises. Et vous citez la gare de Glovelier, effectivement, elle était fermée durant la période estivale, mais sachez que c'est une démarche qui a été initiée déjà il y a une vingtaine d'années par les CFF, des fermetures estivales, puis d'autres fermetures. C'est aussi lié à l'évolution des méthodes d'achat des voyageurs, des consommateurs, qui de plus en plus ont des moyens d'acheter les billets autres que les guichets. Et c'est également un phénomène contre lequel il est difficile de lutter, dans le sens où, dès 2022, il est prévu une automatisation de la ligne entre Glovelier et Delle, ce qui signifiera aussi une réduction, voire une suppression du personnel dans certaines gares sur cet axe. Donc on va plutôt vers une tendance inverse à ce que vous demandez, monsieur le député. Et ça, c'est une réalité. Ce que nous faisons avec les CFF, nous avons une discussion, comme avec la Poste, pour développer des emplois, mais pas forcément pour maintenir des emplois qui n'ont plus forcément de raison d'être en lien avec le changement de comportement des consommateurs. Par contre, ce qui est intéressant, c'est de voir qu'au niveau des CFF, il y a quand même des investissements importants qui sont consentis dans le canton du Jura pour permettre notamment un transport des voyageurs très performant. Je vous rappelle que durant l'été, durant la fermeture du guichet à Glovelier, les CFF ont investi 48 millions entre Delémont et Delle sur une modernisation du réseau pour finalement pérenniser la sécurité des voyageurs.
Merci, monsieur le ministre. Quelle est votre appréciation, monsieur le député ? Monsieur le député Loïc Dobler n'est pas satisfait. Pour la question orale suivante, j'invite à la tribune madame la députée Françoise Chenia.
Françoise Chenia, députée PDC du Noirmont.
Madame la présidente, mesdames et messieurs les ministres, chers collègues, le rond-point des Émibois subit régulièrement des travaux de réfection ou amélioration depuis sa construction en 2012. La fréquence de ces travaux interpelle, surtout en référence aux coûts occasionnés. Si les marchés publics imposent certaines règles lors de l'attribution des travaux, ne privilégie-t-on pas les critères inhérents aux coûts au détriment de ceux inhérents à la qualité de l'ouvrage ? Le gouvernement peut-il nous renseigner ? Ces travaux de réfection sont-ils encore faits sous garantie? En d'autres termes, l'État doit-il payer ou non sur ce qui apparaît de plus en plus être dû à une malfaçon plutôt qu'à une usure naturelle? Je remercie le gouvernement de sa réponse.
Merci Madame la députée. Pour la réponse du gouvernement, Monsieur le ministre David Herret.
Voilà, Madame la députée, les travaux durant l'année 2018 qui ont été effectués sur le giratoire des Émibois ont été réalisés à 100% sous garantie, ça veut dire à charge de l'entreprise qui avait, dans les années précédentes, mis en place un revêtement qui n'apportait pas satisfaction. Donc à présent, nous avons, si je résume, un giratoire en béton armé, un revêtement à haute adhérence que nous espérons qu'il soit durable. Les premiers signes montrent qu'il va tenir plusieurs hivers, donc nous sommes contents des résultats. Nous avons une bonne fluidité du trafic, malgré le fait qu'il y a un rond-point avec un passage à niveau à côté. Il y a donc un sentiment global de satisfaction aujourd'hui, enfin.
Merci, Monsieur le ministre. Votre appréciation, Madame la députée? Madame la députée Françoise Chénia est satisfaite. Et pour la 14e et dernière question orale, j'invite à la tribune Monsieur le député James Frein.
James Frein, député PS de Montigny, qui monte à la tribune pour la dernière question orale.
Madame la ministre, messieurs les ministres, chers collègues, les titulaires d'un permis de conduire doivent se soumettre tous les 2 ans, dès l'âge de 70 ans, à un contrôle médical. L'Office des véhicules convoque sitôt leur 70e anniversaire fêté les conducteurs astreints à cette obligation à faire ce contrôle. Mais de son côté, le Conseil fédéral a modifié l'ordonnance relative à ces contrôles le 15 juin 2018 et il repousse l'âge de départ des contrôles à 75 ans. Par contre, cette ordonnance n'entrera en vigueur que le 1er janvier 2019. Dès lors, il est logique, selon moi, de ne plus exiger dès aujourd'hui le contrôle pour les conducteurs qui n'auraient pas atteint le nouvel âge limite de 75 ans, ceci pour les 4 mois à venir. On éviterait ainsi des visites médicales que le Conseil fédéral considère comme inutiles et qui ne sont naturellement pas gratuites et demandent des déplacements et du temps. Et puis un petit détail, que se passerait-il si une personne qui entre dans sa 70e année entre le 1er novembre et le 31 décembre, l'ancienne ordonnance précise que cette personne a 2 mois pour rendre le résultat de l'examen. Mais si elle ne le fait pas, on ne le constatera qu'en janvier 2019, lorsque la nouvelle sera en application, alors que la loi ne les obligera plus à ce contrôle. Va-t-on leur retirer le permis ? Donc nous sommes dans une situation transitoire et c'est la situation la plus favorable aux conducteurs qui doit prédominer. D'où ma question. Le gouvernement peut-il dès aujourd'hui demander de suspendre ces contrôles en anticipant l'entrée en vigueur de la nouvelle ordonnance ? Je le remercie pour sa réponse.
Merci Monsieur le député. Pour la réponse du gouvernement, Monsieur le ministre David Herret.
Voilà, Monsieur le député, effectivement, l'ordonnance a été modifiée par le Conseil fédéral sans prévoir de dispositions transitoires. Et la question que vous posez, vous devriez plutôt la poser au Conseil fédéral, puisque c'est ce dernier qui est responsable de cette ordonnance, ou la faire poser par nos représentants aux chambres fédérales. Pour ce qui est de l'Office des véhicules, nous allons appliquer simplement la règle très basique de dire que durant l'année 2018, les conducteurs jusqu'à 70 ans révolus seront invités à suivre l'ordonnance en vigueur actuellement. Et dès 2019, nous appliquerons la nouvelle ordonnance qui prévoit donc de convoquer ou d'inciter les conducteurs à faire ces contrôles, de les obliger même à partir de 75 ans révolus.
Merci, Monsieur le ministre. Quelle est votre appréciation, Monsieur le député ? Monsieur le député James Frein n'est pas satisfait.